Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Fanny, bienvenue dans cet audio qui sera un petit peu plus long, mais j'ai essayé de créer un corpus et des explications qui vous permettront vraiment de comprendre pourquoi l'union sacrée est ici, dans cette blessure qui à la base était dédiée au féminin, à la mère et puis à l'enfant intérieur. Pourquoi on ne fait pas que uniquement regarder la partie féminine et pourquoi on va s'intéresser à l'amour et donc l'union finalement entre le féminin et le masculin. Alors, reprenons là où nous étions arrêtés, c'est-à-dire avec l'histoire de Morgane le Fay. Et notamment les versions chrétiennes qui ne retiennent parfois d'elle que ses frasques amoureuses, le nombre de ses amants, et qui la font naturellement basculer dans le monde diabolique des femmes libres sexuellement, où elle rejoint notamment Lilith ou encore Marie-Madeleine. Ces versions ne retiennent plus qu'une seule petite partie de ce qu'est l'amour et l'intimité en se focalisant sur l'intimité sexuelle uniquement. C'était un sujet d'obsession à l'époque pour des auteurs qui avaient fait vœu de célibat ou même vœu d'abstinence pour pouvoir évoluer spirituellement, donc ça s'explique. Mais au temps de Jésus, on sait qu'il n'en était pas du tout ainsi. Un homme ne devenait homme dans la tradition juive qu'à partir du moment où il se mariait. Donc à partir du moment où il était rejoint par sa moitié pour rejouer l'union sacrée. Cette union qui se définit non pas par une seule intimité sexuelle, mais qui va bien, bien, bien au-delà. Et petite parenthèse sur le New Age qui s'arrête parfois ce tantrisme, appauvri, et qui résume l'union sacrée à l'union des corps uniquement, des montées de Kundalini, etc. C'est pas du tout ça, ce n'est pas ce qu'est l'union sacrée, c'est un petit peu comme faire du yoga, comme on fait un sport, mais sans le reste, c'est-à-dire sans la respiration, sans les contemplations, sans la méditation. Donc on prend simplement un petit bout et puis on laisse le reste, parce que finalement, c'est faire exactement la même erreur que les auteurs des versions hautement christianisées des légendes de la table ronde, c'est se focaliser uniquement sur l'intimité sexuelle. Pourtant, ce n'est pas ça, l'union sacrée. L'intimité d'une histoire d'amour ne se résume pas à une entente sexuelle. Et si Morgane a eu des amants, elle dirige notre regard vers ses ressentis amoureux, la souffrance de ses échecs qu'elle ose accepter, avant de poursuivre toujours le cœur ouvert. Car avoir des amants, c'est aussi ouvrir son cœur une multitude de fois. Envers des amours qui peuvent faire mal, comme avec Lancelot, par exemple, qui préférera à Morgane la reine Guenièvre. Et comme elle nous l'a enseigné un petit peu plus tôt, Morgane va épouser aussi ses émotions d'amour déçu tout autant que ses amours heureux. Dans les deux cas, elle ne rejette rien. Elle est l'amoureuse totale, celle qui aime toute chose. Et si cela peut être plus ou moins facile à faire ou à être, en tout cas dans nos toutes premières relations amoureuses, rester une amoureuse ou rester un amoureux total et garder le cœur ouvert aux aléas des comportements de nos partenaires, c'est un vrai défi. Car, enfant, nous avons fait l'expérience de la plus grande blessure, celle qui fait le plus mal, de la plus grande souffrance, celle de s'ouvrir à l'amour inconditionnel et de recevoir à la place souffrance, rejet et humiliation. Cette douleur est amplifiée lorsque l'enfant devient adulte et que cette expérience se reproduit de façon répétitive. Bien que déguisée sous forme de circonstances différentes, on appuie finalement sur la même plaie. Et c'est une plaie qui est située au niveau du cœur, de la définition de l'être et de l'âme, de sa reliance, de l'amour. Et c'est une souffrance parmi les plus grandes, si ce n'est peut-être la plus grande. Nous voici donc guidés à ce stade à intégrer ce cycle inconscient et si douloureux de l'intimité amoureuse. En commençant justement par l'exercice d'apprendre à aimer l'ombre autant que la lumière que vous avez réalisé précédemment. Mais ici, on va l'appliquer à l'amour. Nous avons pu voir que cette blessure est celle qui nous fait porter des masques, parfois même très très tôt dans notre enfance. Nos rencontres amoureuses ne se feront donc pas face à face finalement, mais bien masque à masque, incapable à ce stade toujours blessé, de choisir d'être vulnérable et démasqué. Ce n'est juste pas possible pour nous. Mais ce qui est triste, c'est que ces rencontres masque à masque peuvent malheureusement durer toute une vie et nous tenir éloignés de l'expérience de l'union sacrée. Toute une vie d'interaction superficielle, toute une vie d'interaction non nourrissante. Pardon. Ce qui fait que l'union sacrée va être un choix plutôt radical dans notre monde, un choix de vivre une intimité réelle et sans masque qui potentiellement va nous faire rencontrer de la souffrance. Parce que pour cela, pour vivre cette union sacrée, ce choix radical, nous avons besoin de nous exposer et de révéler toutes les parts de soi, sans le moindre masque. C'est faire preuve d'une honnêteté totale. Et pas juste avec soi, qui est déjà parfois difficile, mais avec l'autre en face, face du coup à des pensées que l'on ne peut pas saisir, que l'on ne peut pas connaître, face possiblement à des jugements, face également à des intentions qu'on peut nous cacher et qui peuvent se révéler ensuite en contradiction avec les nôtres. Il y a plein de risques ici. Et se dévoiler sans maquillage pour montrer ses multiplicités, y compris du coup nos faiblesses, les parts qui sont en demande, celles qu'on trouve pathétiques, sans mérite, celles qui sont moches, ou jalouses, ou malsaines, etc., etc. Bref, toutes ces parts que l'on n'accepte pas, ou en tout cas que l'on n'aime pas. Et toutes ces parts-là, ce sont celles qui cherchent en fait l'amour et la connexion. Alors, oser montrer et exposer ces parts-là, c'est un acte radical là aussi, mais aussi magnifique, pur, innocent et, oui, forcément authentique. Un acte que font tout naturellement les enfants lorsqu'ils ne portent pas de masque ou pas encore, lorsqu'ils n'ont pas été encore totalement blessés. Sans masque, on voit que l'enfant se montre ouvert, bruyant et joyeux, et nous l'avons vu gracieux, plein de vitalité et en reliance avec son essence intérieure. Cela signifie aussi qu'il ne cherche pas à cacher son besoin d'amour, ni son besoin de contact, son besoin de confort, de jeu, d'intimité, de réassurance, de soutien, de nourrissage, besoin d'attention aussi. C'est une belle et précieuse vulnérabilité qui n'est pas si simple de reprendre en main, même si on le désire, même si on se dit « bah maintenant, voilà, j'ai ma blessure de vulnérabilité, hop, ça y est, je me montre vulnérable. » C'est pas si facile, même une fois qu'on le décide. Ça se joue vraiment, toutes ces blessures-là, bien entendu, au niveau de l'inconscient, mais aussi parce que nous avons appris à nous montrer forts et indépendants comme conséquence de notre souffrance. Et c'est cette forme-là, cette conséquence-là, qui va constituer notre principal obstacle à nous montrer désormais vulnérables, à faire ce choix. Chercher à être fort et indépendant commence là aussi très tôt, avec des parents eux-mêmes blessés et qui n'étaient pas capables de manifester de l'amour inconditionnel. Ok. Et quelque part, à plusieurs moments du chemin, ce manque d'amour nous a fait ressentir de l'impuissance, de la peur et l'impression qu'il n'y avait aucune trace, aucune la moindre trace en fait, d'aide de leur part à l'horizon. Ce sont des sensations très souffrante que nous décidons de ne plus ressentir, même si c'est une décision qui se passe à un niveau inconscient. C'est comme une sorte de promesse, un vœu inconscient de ne jamais, jamais plus répéter de telles expériences, de ne pas aller les chercher. Donc, de ne plus être à nouveau en état de vulnérabilité, en état d'ouverture, en état de dépendance à l'amour. Et en état aussi de devoir dépendre des bons soins d'une personne pour survivre. Donc, c'est là qu'on devient indépendant, donc sans dépendre des bons soins de quelqu'un, et fort, ce qui est l'inverse de la vulnérabilité. Et c'est là que Morgane intervient pour nous faire revenir sur cette décision, pour nous faire voir que nous sommes désormais prêts, là maintenant, à revivre ces expériences et ces sensations passées, futures, présentes peut-être aussi, que nous en sommes capables, comme nous avons commencé à le faire dans le questionnaire précédent et dans les exercices d'accueil aussi. Car, bien entendu, ces vœux ferment les portes à l'amour véritable, à l'intimité et à l'union sacrée. C'est une condition. L'union sacrée, sa condition principale, c'est la vulnérabilité, c'est l'ouverture, c'est ôter les masques. Être indépendant et n'avoir besoin de rien ni de personne, c'est une programmation déjà, une illusion née de la peur de souffrir à nouveau, à l'occasion d'une véritable interconnexion. C'est une peur née de cette sensation d'impuissance, née de la perte de contrôle qui vont avec. Et là, on se retrouve coincé parce que nous avons besoin de ce genre de connexion et d'intimité. C'est un besoin vital, un besoin émotionnel, un besoin même corporel. Et ce besoin nous amène à refaire des expériences d'inconfort, à refaire, à renouer en fait avec les expériences où on aura l'impression d'être faible et hors contrôle. Morgane le fait, nous demande, pour guérir, de les accepter autant que les expériences positives, d'intégrer ce qui nous a amené là pour retourner sur le chemin de l'amour. D'ailleurs, on le fait. À chaque nouvelle rencontre, on y croit, on se replonge là-dedans, en tout cas au début, mais on se referme et c'est de nouveau l'échec. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Donc, quelque part, on ose se lancer, mais mi-figue, mi-raisin, on y va, on trempe le doigt de pied dans l'eau, et puis hop, on le ressort un petit peu. Donc là, ce serait plus une question de « Ok, je prends pas la température et j'y vais. » Oui, ça pourra donner un échec, et alors ? Mais ça, c'est difficile, on est d'accord. Parce que ce chemin de l'amour, on l'a quitté très tôt, sans nous en rendre compte. Quand un enfant vit l'absence, ou la perte, ou l'insuffisance, bien souvent, d'amour de sa mère, il va d'abord se mettre en colère, il va l'exprimer avec sa voix, ce qui va lui être reproché. Il va pouvoir l'exprimer aussi avec son corps, ce qui va aussi lui être reproché. Mais il va le faire, encore et encore, malgré ses reproches, parce que c'est vital, ce besoin d'amour est primaire et primordial. Et il lui en faudra beaucoup pour abandonner ce besoin et se taire. Mais cela finit par arriver, surtout si vous êtes ici. Si la mère et son amour ne reviennent pas, alors là commence chez l'enfant un processus de deuil. Il finit par lâcher prise, par s'effondrer dans une détresse absolument déchirante et établir une déconnexion de son monde intérieur. Ce monde, son monde, qui n'est pas reconnu parce que ses besoins ne le sont pas, ni les expressions de son désespoir non plus. Il se coupe alors peu à peu de ses émotions et de ses besoins pour paraître ce qu'il faut paraître, c'est-à-dire calme, impeccable, implacable. Il fait ça pour être validé parce qu'il continue à avoir ce besoin d'amour, il est prêt à tout montrer, même à aller jusqu'à se perdre. Mais ce n'est bien évidemment qu'une question de paraître ici, une question d'afficher quelque chose à l'extérieur, on en revient au masque. Mais c'est aussi une dissociation de son essence et de son âme, soit une dissociation de sa part féminine. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est là qu'il y a le lien avec la mère, l'archétype du féminin et de la déesse qu'elle n'aura pas su soutenir son enfant parce qu'elle-même déconnectée de son sens et de ses instincts féminins et maternels d'amour inconditionnel. Donc c'est une blessure de séparation d'avec le féminin. C'est la mère qui amène la déconnexion du cœur et de l'âme, et du coup de la source intérieure de l'enfant. Et lorsque le masque est adopté, qu'il y a se paraître de calme, l'enfant doit s'auto-apaiser parce qu'il ne peut pas compter sur sa mère. Cela passe par des gestes d'auto-bercement, d'auto-cajolement, qui arrivent très tôt, hein, de prendre une peluche par exemple, etc. Et cet auto-apaisement va être finalement les futures addictions. Ce sont les racines de futures addictions pour pouvoir continuer à maintenir ce masque, pour pouvoir continuer à masquer le besoin d'union sacrée, comme un retour à la symbiose de la mère. Prendre conscience de ce cheminement montre à quel point nous nous sommes adaptés et que ça a mis du temps pour arriver à ce stade-là. Mais le regarder également permet de voir que notre société est aussi coupable parce qu'elle célèbre la séparation précoce d'avec la mère. On est en 2025. Et à combien de femmes conseille-t-on encore de nos jours de laisser leur bébé pleurer, de ne pas le prendre dans les bras pour ne pas le rendre capricieux, de le mettre à l'école maternelle dès ses 3 ans et de retourner vivre sa vie de femme pour se couper de sa vie de mère. En fait, toute notre société est orchestrée pour favoriser la blessure de la mère et la blessure de l'amour. Ce sont, on l'a vu, les deux faces d'une même pièce. Donc ce sont des expériences qui vont avoir lieu très tôt chez l'enfant et qui va lui faire découvrir un monde de peine qu'il va relier à l'idée d'union, à l'idée d'intimité, de fusion, de symbiose, cet état dans lequel il était censé être avec sa mère jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin et dont on le prive. Plus tard dans sa vie, alors qu'il s'ouvrira aux relations intimes, il ouvrira inconsciemment les portes de ses souvenirs de traumatismes d'union qui ne sont même pas conscients parce que du coup, c'est uniquement un monde de sensations, d'émotions à cet âge-là. C'est vraiment très très tôt. Hein. On parle même de la naissance à 3 ans. Donc il n'y a pas encore de cortex préfrontal suffisamment développé pour pouvoir emmagasiner des souvenirs, des images. C'est un flot de sensations. Et ces besoins d'amour et d'interconnexion vont se mêler à ces sensations inconscientes, à ces peurs profondes de souffrir et au choc qu'il a emmagasiné dans le corps de l'abandon par la mère, de la séparation, de la cassure de la symbiose. Et bien entendu, il est totalement impossible de réparer la symbiose perdue avec la mère, hein, une fois adulte. Ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable. Mais cet impact sur notre vie intime, c'est aussi une bonne nouvelle parce que nous allons pouvoir réparer cette blessure avec nos relations intimes et nos relations d'amour. On va pouvoir les utiliser comme réparation. Cela demande d'aller voir, et nous allons le faire prochainement, la fausse empreinte que ces premières années ont laissée en nous sur ce qu'est l'amour, donc ce que nous avons imprimé comme étant de l'amour mais qui n'en était pas. Et c'est ce qu'on va nommer prochainement notre définition inconsciente de ce que représente l'amour pour nous. Mais avant de l'examiner, je vous propose de terminer cette réflexion audio autour de l'intimité par une exploration de ces différentes facettes. Parce que jusque-là, je vous ai dit, l'intimité ne se résume pas à l'intimité sexuelle, mais nous n'avons pas vu quelles sont les autres facettes. Donc, ce n'est pas juste la sexualité et le rapprochement des corps, ok. C'est bien plus que ça, ok. On a identifié 6 visages d'intimité, mais peut-être qu'il y en a encore davantage. Mais je suis assez d'accord avec ces 6 facettes-là. En 1, tout d'abord, il y a l'intimité émotionnelle. C'est pouvoir se sentir émotionnellement soutenu, reconnu dans sa relation. Donc, pouvoir parler à son partenaire, à sa partenaire, sans se sentir jugé, sans avoir peur du jugement de l'autre, Donc, oser dire exactement comment on se sent. Par exemple, là, je me sens seule, là, je me sens inquiet, inquiète, etc. Sans que l'autre ne se sente directement critiqué, qu'il pense devoir se remettre en question ou se mettre sur la défensive. Voilà. Plus cette intimité émotionnelle augmente dans la relation, plus cela va permettre à chacun de faire part de son vécu, de son expérience, sans avoir peur de la réaction de l'autre. Donc il y a une véritable reconnaissance. Deuxièmement, il y a également l'intimité créative. Elle est généralement très présente au début de la relation. C'est être léger ensemble, rigoler, avoir des fous rires, sortir, aller au cinéma, être spontané l'un avec l'autre. Et continuer comme ça à rire et à s'amuser ensemble, à jouer, à faire des jeux de société, des jeux vidéo ensemble. Parce que c'est le genre de choses, c'est une intimité en fait qui souvent ne dure pas et s'efface avec le temps dans la relation. Donc oui, c'est partager un humour ensemble, se faire des blagues, se taquiner, etc. Troisièmement, il y a l'intimité quotidienne, qui consiste à s'investir ensemble, tous les deux, dans un certain nombre de routines quotidiennes et de rituels de fonctionnement pour que tout marche, comme par exemple faire le ménage, en se répartissant les tâches ou en le faisant ensemble. Ça peut être aussi cuisiner ensemble, partager le repas, s'entendre sur les tâches ménagères, je l'ai déjà dit. En fait, vous voyez à peu près, hein, c'est une question d'ordre de l'organisation, mais également d'avoir la possibilité d'être seul en présence de l'autre. En 4, il y a aussi l'intimité spirituelle qui, elle, va regrouper le partage de valeurs profondes, des croyances, alors là, qu'elles soient religieuses ou pas, hein, ça peut être aussi d'ordre de l'existentiel, surtout quelles sont nos idées de ce qui se passe après la mort, est-ce qu'on croit aux fantômes, voilà, un petit peu justement notre héritage familial ou pas du tout, justement être rebelle par rapport à ça, les expériences que l'on a pu faire d'ordre spirituel, et que du coup on est capable de partager là aussi sans se sentir jugé, et encore mieux quand on peut les partager, quand on a les mêmes finalement. Et là, en cinquième, il y a l'intimité intellectuelle qui est proche de l'intimité spirituelle, parce qu'elle va se baser aussi sur des échanges de pensées, des discussions avec l'autre. Mais ici, on se focalisera sur plutôt la stimulation intellectuelle de ces débats, de la qualité des échanges, de l'intérêt. Ça doit être des discussions intéressantes, des notions intéressantes qui nous font en fait nous sentir considérés, mutuellement considérés, admirer l'un l'autre. Et là, ça peut être des débats sur lesquels on ne finit jamais d'accord. L'intimité spirituelle aussi, tant qu'il y a respect et compréhension. Mais voilà, on voit un petit peu la différence assez subtile entre les deux, hein. Pour l'intimité intellectuelle, c'est plus, oui, le fait de se sentir écouté, pris en considération dans ses idées. C'est aussi se mettre au défi de réfléchir sur des thématiques auxquelles on n'aurait jamais pensé et qui est engendrée par la présence et les idées de l'autre. Et finalement, en sixième, en dernière position, l'intimité sexuelle qui, bien entendu, n'a rien à voir avec le quantitatif, donc le nombre de partenaires que l'on a pu avoir ou le nombre de fois que l'on fait l'amour par semaine, mais c'est bien des intimités nourrissantes dont on parle ici, c'est-à-dire qualitatives. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'intimité sexuelle qualitative ? C'est la façon dont on se sent proche de l'autre, au niveau sensuel, donc au niveau de nos perceptions, de nos sens. C'est aussi lié à la qualité de présence de l'un à l'autre, à la confiance que l'on a d'oser parler de nos plaisirs ensemble, de nos préférences, de nos rythmes, fantasmes, et tout cela, là aussi, sans gêne, sans pression, sans jugement, sans peur du jugement de la part de l'autre. Et c'est une intimité qui, on le voit, va être plus affectée finalement par la qualité des autres types d'intimité. Elle va subir l'impact des 5 autres facettes d'intimité. Et je vous propose d'aller explorer toutes ces facettes d'intimité dans un exercice créatif. C'est un exercice à réaliser pour votre relation actuelle, au présent. Il est donc facultatif pour ceux qui ne sont pas en couple et je m'en excuse. Je n'ai pas réussi à l'adapter à d'autres types de relations, ou j'ai aussi réfléchi à l'adapter à des relations intimes mais passées, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de réalisation un petit peu plus objective et honnête de ce qui se passe, parce que déjà c'est du passé, ça peut être assez loin, et il y a toute l'histoire d'ego suite à l'échec de la relation qui va un petit peu gommer certaines informations. Donc on ne peut pas obtenir quelque chose d'honnête en passant par là. Et pour les autres types de relations, malheureusement, il manquera toujours l'intimité sexuelle, voire même du coup l'intimité spirituelle. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, c'est bien le seul exercice de cet atelier qui n'est pas universel. Et je vous promets, à la prochaine page, nous ferons un exercice bien plus important que tout le monde va pouvoir faire et qui est, lui, pas du tout facultatif. Hein. Il va falloir le faire, celui-là, c'est très très important pour soigner notre blessure du cœur. En tout cas, d'ici là, eh bien, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très vite pour la suite de cet atelier. À bientôt.